l'actualité 24 heures sur 24. Excellente journée à tous. Au revoir.
VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, Le Monde Aujourd'hui, édition du mercredi 18 novembre 2020. Bonjour, bienvenue. L'ONU s'est alarmée mardi de la crise humanitaire à grande échelle en train de se développer à la frontière entre le Soudan et l'Éthiopie, où des milliers de gens fuient chaque jour les combats dans la région dissidente du Tigré. Inquiète des risques de déstabilisation de la Corne de l'Afrique, la communauté internationale exerce une pression croissante pour que s'achève cette opération militaire lancée par le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed, qui affirme mardi qu'elle va entrer dans sa phase finale. Un homme s'est fait exploser mardi dans un restaurant de Mogadiscio, la capitale de la Somalie, tuant 5 personnes et en blessant une dizaine d'autres. L'attaque a été revendiquée par les Shebab, groupe djihadiste somalien lié à Al-Qaïda, dans un communiqué relayé notamment par l'organisme américain SAIT, spécialisé dans la surveillance des groupes radicaux. Le président ivoirien Alassane Ouattara, réélu pour un troisième mandat controversé, a raillé mardi une opposition qu'il a qualifiée de salon, assurant qu'il n'y aurait pas de transition, mais l'invitant tout de même au dialogue. Tous ceux qui se font des idées sur une transition, ils peuvent toujours rêver, a lancé le président Ouattara lors d'un conseil politique de son parti, le RHDP, à Abidjan. Ne reconnaissant pas la réélection de M. Ouattara, car jugeant un troisième mandat inconstitutionnel, des dirigeants de l'opposition qui a boycotté le scrutin ont proclamé un Conseil national de transition. L'ancien président malien Amadou Toumani Touré, dont le nom est associé à la transition vers la démocratie, mais aussi au début de la tourmente où le Mali se trouve toujours, a été inhumé hier à Bamako, après des obsèques nationales et en présence du nouveau pouvoir. Amadou Toumani Touré, dit ATT, ses initiales, qui a dirigé le Mali en 1991-1992, avant d'être élu président en 2002, est décédé à l'âge de 72 ans dans la nuit du 9 au 10 novembre en Turquie. De l'Europe aux États-Unis, les pays se préparent à des campagnes de vaccination après l'espoir suscité par l'annonce d'un nouveau vaccin efficace à près de 95% contre le COVID-19. Le directeur général du groupe pharmaceutique américain Pfizer a confirmé mardi qu'une demande d'autorisation de commercialisation de son vaccin contre le COVID-19 serait déposée très prochainement aux États-Unis, ce qui pourrait permettre des premières vaccination en décembre, si tout va bien. Joe Biden, le président élu des États-Unis, a poursuivi mardi la constitution de sa future équipe, notamment celle qui fut la directrice de sa campagne victorieuse, Jen O'Malley Dion, au poste de chef adjointe de cabinet. Joe Biden se prépare à prêter serment le 20 janvier prochain, même si le président Donald Trump continue de contester l'issue de l'élection du 3 novembre. Et le président Donald Trump va réduire drastiquement la présence militaire des États-Unis en Irak et en Afghanistan d'ici le terme de son mandat, sans ordonner cependant un retrait total des forces américaines, a annoncé mardi le Pentagone. Le nombre de soldats américains déployés en Afghanistan va être ramené de 4 500 à 2 500. En Irak, un demi-millier de soldats américains vont être rapatriés, laissant environ 2 500 militaires sur le terrain. 4 roquettes se sont abattues dans la zone verte de la capitale irakienne Bagdad. La police et les services de sécurité ont déclaré que l'attaque visait l'ambassade des États-Unis. L'armée irakienne a déclaré dans un communiqué que l'attaque a tué un enfant et blessé 5 personnes. Washington impute à des milices chiites soutenues par l'Iran les attaques régulières contre les installations américaines en Irak. Aucune de ces milices n'a revendiqué l'attaque. Et pour terminer, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, appelle les dirigeants du G20, dont un sommet est organisé ce week-end par l'Arabie Saoudite, à faire preuve de plus d'audace et d'ambition dans leurs mesures liées à la pandémie de coronavirus, dans une lettre rendue publique mardi. M. Guterres demande que la suspension de la dette soit prolongée jusqu'à fin 2021, et d'étendre la couverture de cette mesure pour inclure les pays à revenus intermédiaires vulnérables qui en ont besoin. Il appelle les dirigeants du G20 à combler le déficit de financement de 28 milliards de dollars nécessaires pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre le COVID-19. Dans un instant, la suite de ce journal. La suite de nos informations ce mercredi 18 novembre. Au Congo, les proches de 13 jeunes tués dans un commissariat de Brazzaville en 2018 vont finalement recevoir une indemnité de 15 millions de francs CFA. Ainsi en ont décidé les autorités judiciaires. Les détails avec Mouamadou Mfa.
La Cour d'appel de Brazzaville a examiné hier le recours contre le jugement de la Chambre correctionnelle en mars 2019. Ce jugement ne prévoyait aucune indemnité pour les familles de 13 jeunes qui ont été tués dans le commissariat de Chakona à Brazzaville dans la nuit du 22 au 23 juillet 2018. La Chambre correctionnelle avait alors condamné 6 policiers à des peines allant de 1 à 3 ans de prison pour homicide involontaire. Selon maître Steve Bagne, l'avocat des parties civiles, les juges de la Cour d'appel ont annulé le premier jugement, ils ont requalifié les faits et reconnu la responsabilité civile des prévenus et de l'État congolais qui est condamné à verser une indemnité de 15 millions de francs CFA par victime. Présents à l'audience, certaines familles ont estimé que 15 millions par victime, c'est minime parce que les jeunes ont perdu la vie à la fleur de l'âge. Nous ne sommes pas satisfaits parce que nous avons perdu des êtres chers, mais ce qui est fait, a indiqué sous couvert de l'anonymat le parent d'une victime.
Au moins 33 000 personnes ont fui en une semaine les violences dans le nord du Mozambique, ravagées depuis 3 ans par une insurrection djihadiste. C'est ce qu'a annoncé hier l'Organisation internationale pour les migrations, les précisions de John Lindon.
Depuis la prise de la ville portuaire de Moussimbao di Praia en août, dans la province de Capo Delgado, riche en gaz naturel, les insurgés ont intensifié leurs attaques. Ces dernières semaines, plusieurs villages ont été attaqués, des dizaines de civils décapités ou kidnappés, dont des enfants et des femmes. Les corps mutilés de 20 personnes ont été retrouvés début novembre. Selon un communiqué de l'OIM, plus de 33 000 personnes sont allées vers le sud au cours de la semaine dernière, la plupart contraintes de fuir les récents incidents. L'organisation estime désormais à plus de 355 000 le nombre de personnes contraintes de quitter leur maison depuis 2017. L'ONG AGLED, présente sur le terrain, parle de plus de 400 000 personnes. D'après l'ONG, les violences ont tué au moins 2 000 personnes, dont 1 100 civils.
Ici aux États-Unis, les fondateurs de Twitter et Facebook ont de nouveau été interrogés mardi au Sénat sur le pouvoir de leur plateforme dans le débat politique. Le point avec Abdourahman Dia.
Il semble que vous soyez devenu l'éditeur ultime, a déclaré Lindsey Graham, le président républicain de la commission judiciaire qui a organisé cette audition sur la gestion de l'élection de 2020 et la censure dont Donald Trump et ses alliés se disent victimes. Les républicains reprochent aux deux réseaux leur décision de limiter la circulation d'articles du quotidien conservateur New York Post qui assurait fournir des preuves sur une affaire de corruption impliquant le démocrate Joe Biden environ 2 semaines avant le scrutin présidentiel. Jack Dorsey de Twitter et Mark Zuckerberg de Facebook, auditionnés au Sénat pour la deuxième fois en moins d'un mois, ont défendu les mesures prises pendant les élections pour, disent-ils, juguler la désinformation et les tentatives de discréditer le processus démocratique. Leurs règles les ont conduits à épingler et freiner la propagation de très nombreux messages de Donald Trump, suivis par près de 89 millions d'utilisateurs sur Twitter. Les sénateurs républicains et démocrates sont d'accord sur la nécessité de réformer une loi qui empêche les poursuites judiciaires liées au contenu publié par des tiers sur les plateformes sociales.
C'est l'heure de la Minute Éco avec John Lindon.
La Banque africaine d'import-export a réalisé un bénéfice net de près de 217 millions de dollars. C'est une légère baisse par rapport à 2019, conséquence de la crise liée au coronavirus. Toutefois, la Banque panafricaine a bonifié de 34% le total des actifs qui s'établit à 19,33 milliards de dollars au 30 septembre 2020 contre 14,44 milliards de dollars le 31 décembre 2019. C'est le résultat de l'augmentation des prêts et avances des trésoreries. Cambrai, le concessionnaire du chemin de fer camerounais, a investi près de 400 millions de francs CFA pour préserver l'environnement à travers les travaux de désherbage des abords de la voie ferrée et l'entretien des ouvrages d'art sur l'ensemble de son réseau. Une initiative bien accueillie par les riverains avec lesquels des rencontres ont été organisées en vue de renforcer la sécurisation de la voie ferrée. Cambrai se prépare à mettre en circulation un nouveau matériel roulant 4 ans après l'accident ferroviaire des ECA. Les petites et moyennes entreprises candidates au concours des plans d'affaires en RDC ont jusqu'au 16 décembre 2020 pour déposer leur dossier. Les PME dans les secteurs de l'agro-transformation, l'industrie légère et les services à valeur ajoutée dans les villes de Kinshasa, Matadi, Goma et Lubumbashi sont concernés. Ces concours, lancés le 30 septembre 2020, entendent renforcer les capacités des PME à travers une subvention et un accompagnement technique.
La page des sports maintenant avec Yakuba Ouedraogo.
Bonjour à tous. Les matchs de la 4e journée des éliminatoires de la CAN 2021, reportés à 2022, se sont achevés hier. Le Lesotho a tenu le Bénin en échec 0-0 à Maseru, 1-1 entre la Côte d'Ivoire et Madagascar, 0-0 entre le Rwanda et le Cap-Vert, défaite surprise du Ghana face au Soudan 1-0, 3-0 pour l'Éthiopie devant le Niger. Lundi, l'Eswatini a tenu en échec le Congo 0-0 et a accroché son premier point dans ses éliminatoires. Même score entre le Burkina Faso et le Malawi, 4-2 pour l'Afrique du Sud qui s'est déplacée à Sao Tomé-et-Principe. Le Botswana a battu la Zambie 1-0, 2-1 pour la Gambie face au Gabon, 2-0 pour le Cameroun qui se déplaçait au Mozambique. Les Zimbabwéens ont tenu en échec les champions algériens 2-2. N'empêche, l'Algérie rejoint le Sénégal sur la liste des premiers à se qualifier sur le terrain pour la prochaine CAN. Le point du nul permet aux Verts de conforter leur position de leader avec 10 points, soit 5 de plus que le Zimbabwe. L'Algérie a atteint la barre de 22 matchs sans défaite et s'approche davantage du record africain d'invincibilité détenu par la Côte d'Ivoire avec ses 26 matchs. Basketball, ici aux États-Unis, la draft de la NBA va délivrer son verdict ce soir. Coronavirus oblige, c'est par visioconférence que se déroulera la cérémonie. Le patron de la Ligue, Adam Silver, prononcera le nom de l'heureux joueur drafté, le premier, suivi des 29 autres du premier tour et des 30 du tour suivant. Après tirage au sort, Minnesota détient le premier choix. 14 clubs sont prioritaires du fait qu'ils n'ont pas disputé les derniers playoffs. Reste désormais à savoir sur qui les Timberwolves vont jeter leur dévolu. 3 principaux candidats se dégagent selon les projections des spécialistes, LaMelo Ball, James Wiseman et Anthony Edwards, mais personne ne s'accorde sur l'ordre dans lequel ils seront draftés. Toujours en basketball, le meneur Chris Paul a été transféré du Thunder d'Oklahoma City au Phoenix Suns en échange du meneur espagnol Ricky Rubio, de l'ailier Kelly Oubre Jr., de 2 autres joueurs et d'un premier tour de draft, a confirmé la franchise d'Arizona. Pour Phoenix, Paul, 35 ans, et l'ailier égyptien Abdel Nader, également inclus dans la transaction, valent bien 5 joueurs d'Oklahoma. Le joueur de 35 ans, sélectionné 10 fois au All-Star Game, va apporter son talent et son expérience dans une équipe qui compte dans ses rangs la pépite Devin Booker. L'objectif est de permettre aux Suns de retrouver des playoffs qui leur échappent depuis 2010.
Merci Yakuba, c'était la page de sport de VOA Afrique. Écoutez le monde aujourd'hui sur VOA Afrique, en votre compagnie Jean-Roger Guillon. Place maintenant au dossier du jour. Les Burkinabés se rendent aux urnes le 22 novembre pour élire le président du Faso, mais aussi leurs députés. Le président sortant Roch Kabore fait face à 12 autres candidats, mais le scrutin va avoir lieu dans un contexte difficile. En matière de sécurité, il ne va pas se tenir dans au moins 17% du territoire. Pour un panorama de la situation au Burkina Faso, Bagassi Koura, adjoint à Ouagadougou, le politologue Siaka Koulibaly.
C'est clair que pour les partis et les candidats, l'enjeu c'est de conquérir le pouvoir d'État à travers les institutions comme la présidence du Faso et puis les postes de députés au Parlement. Pour la population, les enjeux c'est de trouver un dirigeant et une équipe de politique qu'il puisse corriger les déficiences constatées depuis longtemps. Donc, chaque catégorie d'acteurs a ses enjeux précis et on verra comment cela va se passer le jour des élections.
Et quelles sont ces déficiences constatées depuis longtemps, comme vous dites?
Les déficiences sont nombreuses. D'abord, il y avait le fait que le développement n'avançait pas à un rythme assez vite, assez élevé. Donc, la pauvreté prenait de l'ampleur. Et ça, c'était de manière chronique et pas seulement les 5 dernières années. À cela s'est ajouté depuis 2016, la question de l'insécurité, hein, qui a été permanente pendant les 5 années passées. Et à cela, il faut ajouter donc le conflit du travail, avec les contradictions entre le gouvernement et les syndicats. Et tout ça a joué sur l'économie, en particulier l'économie rurale, où sur une bonne partie du territoire, on ne peut plus mener d'activité de production.
Oui. Au sujet justement de la sécurité, que disent les candidats?
Tous les candidats ont inscrit la sécurité comme secteur prioritaire de leur action à venir, en proposant des solutions diverses. Donc c'est dans les propositions des solutions qu'il y a des différences peut-être entre les candidats. Certains mettent l'accent sur le renforcement de l'armée et des dispositifs de sécurité. D'autres mettent l'accent aussi sur les politiques sociales qui devraient corriger aussi les causes de l'insécurité. Et quelques-uns proposent de passer aux négociations avec les groupes terroristes afin de mettre fin à la situation.
Siaka Koulibaly, analyste politique, joint à Ouagadougou.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le Burkina Faso aux urnes ce dimanche. Les électeurs choisissent leur président et leurs députés à l'issue d'une campagne dominée par la question sécuritaire. En effet, le pays connaît depuis 2015 une série d'attaques djihadistes. Comment le sujet sur la sécurité est-il abordé par les 13 candidats à la présidentielle? Quels sont les autres thèmes abordés lors de cette campagne? Comment les Burkinabés voient-ils ces élections? Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi 19 novembre 2020 à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com.
En Guinée, les avocats des opposants inculpés et incarcérés ont saisi la cour d'appel de Conakry pour leur libération. Plusieurs membres du parti de l'opposant Selou Dalène Diallo sont visés par la justice guinéenne. 4 opposants ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt lundi à la maison centrale de Conakry, le plus grand établissement pénitentiaire de la capitale guinéenne. Tous sont accusés, entre autres, d'usage d'armes légères et de guerre. Les détails avec notre correspondant en Guinée, Zakaria Camara.
Le DG de Selou Dalène Diallo n'entend pas baisser les bras. Le collectif des avocats qui défend les 5 cadres du parti espère obtenir de la cour d'appel la libération de ses clients. Maître Pépé Antoine Lama.
Et je dois vous dire que ce dossier est vide. C'est un dossier monté de toutes pièces avec pour simple but de museler l'opposition. Aujourd'hui, ce que le collectif croit avoir compris dans ce dossier, c'est que le seul crime de nos clients se résume au fait d'avoir milité pour aider l'UFDG à l'occasion de l'élection présidentielle du 18 octobre 2020.
L'inculpation et l'incarcération des opposants au président Alpha Condé pourrait remettre en cause une quiétude qui semble fragile selon plusieurs observateurs. Les violences post-électorales marquent encore les Guinéens. Pour Ben Youssouf Silla, membre de l'UFDG, il faut éviter de mettre de l'huile sur le feu.
Nous avons besoin d'union. Il faut éviter de condamner les innocents et de libérer les coupables. Comme nul n'est au-dessus de la justice. Nous voudrons que cette justice fasse correctement son travail et dans le cadre politique, aller à l'apaisement, aller à l'unité pour que la Guinée se développe dans l'intérêt de tous les Guinéens.
Des opposants arrêtés et mis en prison, le sujet fait réagir certains Guinéens rencontrés à Conakry.
Moi, je n'ai pas un acte que je peux déplorer, dès lors que c'est la justice qui est en train de jouer ce rôle. Moi, il y a plein de citoyens dans la cité, il y a plein de militants et des leaders de l'UFDG. Moi, je me dis qu'ils ont quelque chose qui incite la justice à les poursuivre.
faut qu'il y ait aussi la liberté d'expression. On ne peut pas se permettre d'arrêter les gens parce qu'ils ont tenu des propos à l'encontre d'une personne. Donc tout le monde ne peut pas être dans le même camp, en fait. Si toutefois tel est le cas, je dirais le gouvernement n'a qu'à arrêter de faire des arrestations arbitraires.
Bien, ils ont été matures, démocrates, en s'y rendant de façon responsable à la DPJ, une chose qui est salutaire et qui prouve que la démocratie est pratiquement en marche en Guinée. Personne n'est au-dessus de la loi. Pendant 10 ans, il y a eu le pillage, il y a eu des pagailles, il y a eu des subordinations, il y a eu des bavures ou des délits de l'État, il y a eu aussi des citoyens qui ont causé du tort à l'État.
Dans une récente sortie, le président Alpha Condé a dit que la justice guinéenne suivra son travail, mais a-t-il précisé, il ne s'agit pas de la chasse aux sorcières. Zakaria Camara pour VOA Afrique, Conakry.
Retrouvez les programmes de VOA Afrique en Guinée sur Radio Milo FM 99.5 à Cancan et à Siguiri, Bolivar FM 99.4 à Mamou, Sabari FM 97.3 à Conakry, Sabou FM 96.6 à Kindia, Soleil FM 93.5 à Conakry.
Le conflit dans la région dissidente du Tigré en Éthiopie, déclenché le 4 novembre, a déjà un impact régional croissant avec des effets ressentis jusqu'au Soudan voisin, en Érythrée et en Somalie. Un reportage de Mohamed Youssouf à Nairobi, relaté par Nathalie Barge.
Les forces gouvernementales éthiopiennes affirment avoir pris la ville d'Alamata, à 120 km de Mekelle, la capitale de la région du Tigré. Mustapha Ali, expert en sécurité dans la Corne de l'Afrique, estime que le conflit risque de durer longtemps, contrairement aux affirmations du gouvernement fédéral qui parle d'une brève opération militaire.
Cela vous indique que l'Éthiopie progresse et qu'elle va gagner plus de terrain, mais voici le défi. Cette guerre pourrait se transformer en un combat de guérilla et il sera très difficile pour l'armée éthiopienne de déloger le TPLF.
Le président régional du Tigré, Debretsion Gebremichael, a déclaré que ses forces ont effectué des tirs de missiles contre l'Érythrée, avertissant qu'il y aurait d'autres attaques. Le Front de libération du peuple du Tigré accuse l'Érythrée d'avoir envoyé des troupes pour l'attaquer, une allégation niée par Asmara. Mustapha Ali.
La guerre va être encore plus meurtrière et il y aura beaucoup plus de réfugiés. L'entrée de l'Érythrée dans ce conflit donnera à Abiy Ahmed un avantage dans ce sens qu'il pourra bénéficier de l'expertise des forces érythréennes et de leur connaissance du terrain, car ce sont tous des Tigréens.
Le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré dimanche que ses forces pouvaient gérer les combats et n'avaient pas besoin de l'aide d'un autre pays. Le gouvernement a retiré des troupes de Somalie pour les utiliser en renfort. Comfort Hero est directrice du programme Afrique pour International Crisis Group.
Cela met la Somalie en péril, d'autant plus que le pays se prépare pour les élections législatives et présidentielles et qu'il existe une relation étroite entre le Premier ministre Abiy et le président Farmajo. La principale préoccupation est de savoir quelles seront les conséquences pour le Soudan, dont la stabilité est fragile en ce moment, et pour la Somalie à l'entrée des élections.
Thomas Murphy, analyste du renseignement et de la sécurité pour l'Afrique subsaharienne, pense que ce conflit risque d'affaiblir l'appareil sécuritaire de l'Éthiopie.
Il y a des combats intercommunautaires généralisés en cours dans la région d'Oromo, dans la région d'Amara, dans les régions populaires de la Somalie et du Sud, et l'armée doit souvent être déployée pour contenir cela, en particulier dans les situations où les forces de sécurité locales sont incapables de le faire. Le fait que le gouvernement fédéral soit impliqué dans ce conflit contre la région du Tigré ne fera qu'exacerber cette capacité et forcera Abiy à prendre les décisions difficiles concernant le déploiement en Somalie.
Les Nations Unies, les États-Unis et d'autres puissances mondiales ont appelé à l'arrêt des combats et à des efforts de médiation, mais jusqu'à présent, le gouvernement fédéral a exclu toute discussion avec les dirigeants régionaux du Tigré.
VOA Afrique, en direct de Washington.
À République démocratique du Congo, la chanteuse Tchala Mouana respire depuis hier l'air de la liberté après plus de 24 heures de détention dans les locaux de l'Agence nationale du renseignement ANR. L'artiste avait été incarcéré à la suite d'une chanson intitulée Ingratitude, en pleine tension politique entre le camp du président Félix Tshisekedi et celui de son prédécesseur Joseph Kabila. Je ne vous en dis pas plus, Edi Sango à Jean à Kinshasa, la chanteuse Tchala Mouana.
Elle m'a reçu depuis lundi matin à l'âne provinciale et des amis arrivent là-bas. On m'a bien reçu par l'auditeur de l'acte de l'année de M. Mbombo. On m'a interrogé, donc je suis répondu ce que je pouvais répondre. Et j'ai dit ceci, bon, moi je fais la chanson, je suis la responsable. Mais par contre, tout ce qui est image, ce n'est pas moi. Ce sont les gens qui cherchent des aides. Ce sont les gens qui manipulent les internets là pour qu'ils puissent avoir de l'argent. Mais moi, je n'ai pas du tout mis des images du président qui s'occupe. J'ai beaucoup de respect pour lui, c'est notre chef de l'État, le président de la République. Pourquoi l'insulter? C'est pas la première fois qu'on chante trahison. Dans notre pays, j'ai chanté trahison. Depuis 2003, j'ai chanté le Cambodge, j'ai chanté Yamaïkila, je chante aujourd'hui trahison. Si je m'adresse même pas à lui. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé avec ces gens-là de réseaux sociaux. Ils ont mis des images pas possibles parce que tout ça qu'on a chanté, j'ai perdu ma chanson comme ça.
Et qu'est-ce qu'on a reproché à votre chanson en soi, sans les images?
Parce que je chante la trahison, les gens disent que moi je chante le président, ce n'est pas lui, je ne m'adresse pas à lui. Je sais que le moment est compliqué en ce moment avec, avec les politiciens, ça parle tout beaucoup chez nous ici.
Mais curieusement, votre chanson sort au moment où il y a une forte tension au pays. N'avait-elle rien à faire avec cette tension au pays?
Mais ma chanson, est-ce qu'il y a des périodes pour sortir une chanson? Moi je ne sais pas. Pourquoi je ne sais pas, je ne sais pas. La chanson. Ce n'est même pas moi. La chanson n'était même pas terminée parce qu'ils n'avaient même pas encore fait le mixage. Et donc, voilà, je ne sais pas qui a balancé cette chanson sur l'internet. Et les gens ont récupéré la chanson pour mettre leurs images. Je n'ai pas de compte à rendre à M. Tshisekedi. Je n'ai pas de problème à dire que c'est notre chef.
Justement.
J'ai été insulté à mort. J'ai pas insulté de partout. Pourquoi m'insulter? Les gens ne respectent même pas de côté. Tous les gens de ces membres, les gens de l'IDF, ce sont des gens qui ne comprennent même pas. Hein? Les gens qui sont mal connus là-dedans, et je ne laisserai pas cette insulte aux gens. On a insulté comme un poisson pourri.
La commission de censure a interdit la chanson. Pourquoi n'est-elle pas passée devant elle, comme c'est demandé par la loi?
La chanson n'était pas terminée, papa. La chanson n'était pas finie. Comment je vais passer à la censure? La censure chez nous, dès que vous terminez votre produit, avec votre vidéo, vous passez à la censure au ministère de la Justice, et vous donnez l'autorisation. Là, vous pouvez diffuser la chanson. La chanson n'était même pas finie.
Madame Tchala, on sait que vous avez toujours eu de bonnes relations avec les pouvoirs en place, depuis Mobutu, depuis le président Laurent Désiré Kabila, depuis Joseph Kabila. Mais maintenant, quelles sont vos relations avec Félix Tshisekedi?
La chambre est prise, c'est ce que je dis.
Oui.
C'est mon président, le président de tout le Congolais. C'est notre président, même si je suis kabiliste. Je suis kabiliste, mais je sais que c'est notre président actuel, c'est lui. Je n'ai pas du tout changé.
Est-ce que vous considériez le fait d'interdire la chanson comme une entrave à la liberté d'expression?
En tout cas, on dit en Afrique, il y a la démocratie. Moi, je ne sais pas. Hein? Moi, je ne sais pas. Ça, ce n'est pas la démocratie. Je pense qu'on n'est pas libre. Parce que si on est libre de faire ce qu'on veut, je ne sais pas. Moi, je fais ma chanson qui n'a rien à voir avec les insultes ou avec la plateforme du président. Mais les gens ont fait et ils ont tiré son attention vers la chanson et sur les images.
Vous n'allez pas faire un recours à la commission de censure?
Le même matin, moi, je suis parti du droit. Mais moi, je ne vais pas laisser perdre ma chanson comme ça. C'est ma chanson à moi. Ma chanson ne peut pas mourir comme ça.
Tchala Mouana à Kinshasa.
Clairement Agibo avec vous. À votre avis, votre émission débat 18h05 sans universel sur VOA Afrique ce jeudi est consacrée à la rentrée scolaire en ces temps de Covid. Les élèves du Gabon, du Sénégal, du Togo et de la Mauritanie ont repris le chemin des classes. Comment cela s'est-il passé dans votre pays, dans votre région? Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Vous souhaitez participer? Laissez-nous vos réactions, vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique.
À votre avis, c'est du lundi au vendredi à 18h05, temps universel sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Présentation Jean-Roger Billon, mise en onde Michel Joseph. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram.